This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des sports mécaniques et de la Formule 1 dans votre podcast consacré donc au sport mécanique avec Stéphane Vrignot, remis du décalage horaire Stéphane.
Oh ben c'était pas très difficile.
Alors, aujourd'hui, évidemment, programme un petit peu particulier. On va revenir sur les principaux enseignements de ce quatrième Grand Prix de la saison, sur le tracé toujours assez incroyable de Suzuka. Et puis, on aura un invité très sympa, Fred Makowiecki, pilote Porsche en endurance. Alors, c'est sans doute pas
pilote
le nom...
d'usine. Ouais.
Pilote officiel, oui exactement, pilote d'usine Porsche. C'est certainement pas le nom le plus célèbre de l'endurance et notamment chez les Français, mais c'est un garçon qui a une carrière absolument incroyable, qui a une capacité d'analyse, de compréhension des choses, évidemment en endurance, heureusement pour lui. Mais on parlera aussi de Formule 1 avec lui.
Fred, on pourra le voir en haut, sur la plus haute marche du podium, aux 24 heures du Mans, le 16 juin prochain.
Ça, ah oui,
c'est une
clairement.
Hypothèse qui a tout à fait court. Voilà, donc il est vraiment dans le cœur du réacteur en ce moment, en WEC. Donc, on va en parler avec lui. Et puis, il a eu la chance de tester avec Sébastien Vettel. Il va nous dire... comment ça s'est passé?
Exactement.
Sur la Porsche 963.
C'était il y a quelques jours en Aragon, donc on fera le point avec Fred Makowiecki. En attendant, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez Stéphane, on attaque avec ce Grand Prix du Japon, quatrième épreuve de la saison 2024. Alors évidemment, on restait sur la victoire de Carlos Sainz lors de l'épreuve précédente. L'abandon en Australie de Max Verstappen. Red Bull, c'est le premier point, semble avoir remis l'église au milieu du village de la Formule 1 avec un doublé Verstappen-Pérez qui n'a souffert d'aucune contestation, on est d'accord?
Donc une contestation, retour à la normale pour Verstappen et Sergio Pérez est très motivé par son contrat 2025. Il est en compétition certainement avec Carlos Sainz qui a fait aussi des choses très intéressantes et les deux sont certainement liés. On a vu aux essais qu'en fait la voiture correspondait bien parce qu'elle est tellement saine en termes de comportement routier. Un pilote comme Verstappen sur vireur, un pilote un peu plus classique comme Pérez, il y avait une fraction de seconde entre les deux sur un tour, 66 millièmes je crois. Et en course, par contre, là, gestion des pneus, du trafic, plein de choses comme ça. On ne l'a pas du tout vu parce qu'il est,
oui,
il part en tête et puis on s'occupe des autres. Mais voilà, il est le boss. Pérez a fait le job en terminant deuxième. Ce qu'on retient, c'est que la Red Bull est encore au-dessus du lot. Et puis, comme Suzuka, c'est vraiment un circuit témoin, un circuit étalon du championnat.
C'est exactement le terme que j'avais employé.
Voilà, ils vont être bien toute l'année, ce qui n'est pas une surprise. Et puis derrière, on a eu des enseignements quand même très intéressants.
Oui, on va parler de Ferrari, notamment, qui termine aux 3e et 4e places avec Carlos Sainz et Charles Leclerc. D'abord, le bon point, c'est que déjà Ferrari s'établit quelque part maintenant de manière durable comme la deuxième force du plateau. Et ce qui était très intéressant, j'ai trouvé Stéphane, c'est que après le drapeau rouge à la fin du premier tour, l'accrochage entre Ricciardo et Alex Albon, on a décidé finalement chez Ferrari d'avoir deux stratégies très différentes entre Carlos Sainz et Charles Leclerc qui avait un petit peu manqué sa qualification, qui partait d'un petit peu plus loin sur la grille. Et au final, ces deux stratégies très très différentes, elles aboutissent aux 3e et 4e places. Ça veut dire que on comprend des choses aussi sur cette voiture, qu'on sait avoir des recettes un petit peu différentes chez Ferrari.
Oui, par le passé, chez Ferrari, quand on faisait ça, c'est qu'on ne savait pas trop quoi faire. Et derrière, on sait qu'il y a une vraie idée, il y a une vraie démarche de la part de Fred Vasseur. On n'est plus dans... une sorte d'inconnu, voilà, c'est ça, un trou noir en termes de stratégie. Et c'est là-dessus aussi que c'était pertinent, parce qu'on voit au bout du compte que les deux stratégies étaient assez équivalentes, mais on essaye quand même d'aider Leclerc en le mettant sur une stratégie un petit peu plus ingrate, hein. Un seul arrêt après la reprise de la course.
Mais il partait 8e sur la grille, c'était un petit peu loupé mais en qualification.
Ça fait quand même des belles prestations. Alors, relevé par le grand public qui a élu Charles Leclerc pilote du jour. Alors, moi, mon choix ne serait pas allé vers lui, mais ça fait quand même 4 fois qu'un pilote Ferrari est élu pilote du jour. Donc, ça signifie qu'on sait quand même les mettre dans une bonne situation. Et puis, là, maintenant, en fait, ils sont effectivement les premiers contradicteurs de Red Bull, 3e et 4e, c'est solide. J'y vois là quand même la patte Vasseur pour deux choses. C'est que quand ils posent la voiture sur la piste le vendredi, il n'y a pas beaucoup de retouches à faire. Là, les pilotes l'ont dit, spécialement Sainz, depuis le début de la saison, on fait quelques modifications de réglage, mais vraiment qui sont à la marge. Et puis, la voiture est prête et elle se comporte beaucoup mieux en termes d'usure le dimanche.
Ça, c'est ce que dit Carlos Sainz. En revanche, on a vu un Charles Leclerc un petit peu perdu. Le mot est un petit peu fort. Ses propres termes, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné en qualification. Quand un pilote ne comprend pas, ça devient tout de suite compliqué quand même.
Question d'équilibre, de train avant fort. Et c'est clair que s'il n'avait pas ça dans les S du premier secteur, il allait souffrir. C'est ce qui s'est passé. Je crois qu'il lâche quand même 12 centièmes à Sainz, rien que dans cette portion-là. Donc ça se paye au prix fort. Et il s'en est pas tellement bien sorti. Il est un peu inquiet quand même. Franchement, ça fait 2 fois que ça arrive. Il est en train un petit peu de perdre la main. Il s'inquiète. Et puis, cette année-là, normalement, on devrait le conforter avant d'affronter Lewis Hamilton l'an prochain, qui l'attend de pied ferme. On a vu Lewis Hamilton faire un tour absolument merveilleux.
En Q2.
En Q2. C'est son plus beau tour depuis 3 ans, depuis que la voiture ne fonctionne pas. C'était absolument génial. Et là, il y a un déséquilibre. C'est assez étonnant. Ils ne sont plus exactement complémentaires. Ils sont différents. Et là, pour l'instant, quand même, Charles, il est clairement sur la défensive, ce qui est une surprise.
Bon, il a quand même fait un beau bénéfice, hein, partir 8e, arriver 4e d'un Grand Prix, en ayant eu à un moment la 3e place en main, même s'il n'a pas pu résister à Carlos Sainz, qui lui avait une stratégie qui lui offrait des meilleurs pneus sur la fin de course. Bon, je remarque quand même que Charles, il a été quand même très très prudent, et il a fait un arrêt de moins par rapport à Carlos Sainz. C'était une des conditions pour essayer de gagner des places en course par rapport à cette 8e place sur la grille de départ. Il fait son meilleur tour dans le tout dernier tour, Charles Leclerc. Donc il a peut-être été un tout petit peu trop économe avec ses pneus, ce qui est plutôt un bon défaut, parce que l'année dernière, c'était le problème inverse pour la Ferrari, qui mangeait ses pneus. Là, on a quand même le sentiment qu'on a aussi bien rectifié des choses de ce côté-là.
Mais il se fait passer quand même sur une grosse alerte.
Oui.
Il se fait doubler par Perez en sortant dans Degner. Là, c'était moins un, hein. Le mur n'était pas loin. Donc, ça prouve quand même qu'il ne parvient pas à trouver le mode d'emploi de cette voiture qui est quand même différente.
Voilà.
Alors que les pilotes disent que fondamentalement, elle est assez similaire à celle de l'année dernière. Elle a quand même été bonifiée en termes de réglage, une suspension différente pour ouvrir la palette de réglage. C'est Sainz qui en profite pour l'instant.
Pour l'instant, oui, effectivement. Un petit mot quand même, moi, ce qui m'a épaté, ce qui m'a un petit peu agacé, même pendant ce Grand Prix, c'est la surprise de Lando Norris quand on lui dit rentre au box. Donc, pour un deuxième passage au stand, ça faisait pas longtemps finalement qu'il avait ce deuxième train de pneus. Il leur dit, mais là, tout de suite, maintenant, Lando Norris qui pouvait jouer la troisième place face à Carlos Sainz et à Charles Leclerc. Bon, on est resté sur cette décision du côté de chez McLaren.
Et ça n'a pas fonctionné parce qu'il est reparti derrière Russell.
Ouais.
Et l'obsession des stratégistes, de toute façon, quand on détermine un moment pour s'arrêter, c'est qu'on est sûr qu'on va être devant une voiture cible de retour en piste, et c'était même pas le cas. Alors le stratégiste chez McLaren, il s'appelle Darren Stanley, il a dû se prendre une soufflante.
Oui, en tout cas c'était ça a été mal exécuté parce qu'il est ressorti derrière George Russell, et en plus il s'est retrouvé finalement à anticiper son arrêt pour essayer d'être devant Russell, ça a loupé. Et en plus, du coup, comme il est rentré plus tôt, il a changé de pneus plus tôt, sur la fin de course, il avait des pneus plus usés que Carlos Sainz. Il n'a absolument pas eu le droit de citer, à tel point c'est qu'il a même perdu cette 4e place qui semblait quand même un lot de consolation et il n'a pas pu aller la chercher. C'est Charles Leclerc qui en a terminé.
J'ai vu quand même qu'il avait pris le dessus sur Piastri. Il y a un écart maintenant, clairement, qu'on voit
deux dixièmes à peu près. On sent qu'il a tapé un petit peu du poing sur la table.
Mais la hiérarchie maintenant est claire. C'est un petit peu surpris d'ailleurs chez McLaren parce qu'on avait coché cette course à Suzuka pour dire bah, nous, en fait, on est la deuxième force du plateau. Et bah, non, c'est Ferrari qui est devant. Et le bilan, c'est qu'en termes de stratégie, eh bien, McLaren a fait un peu du Ferrari de l'année dernière ou des années Binotto. Et oui. Puis Ferrari a fait un peu l'inverse en étant très rationnel à la McLaren. Et ça se joue à ça.
Mais souviens-toi, Stéphane, on en avait parlé hein, de cette culture aussi de la stratégie à haut niveau. McLaren a quand même passé plusieurs saisons à se bagarrer avec des équipes de ce qu'on appelle le midfield, hein, c'est-à-dire le milieu de peloton. Là, d'un seul coup, quand on prétend à des places sur le podium, on se bagarre avec Red Bull, pas encore, tout à fait, avec Ferrari, avec Mercedes. Et là, pour le coup, la moindre approximation, bah, ça se paye cash. C'est là qu'on voit la différence un petit peu de niveau aussi entre les équipes. Il n'y a pas qu'au niveau des pilotes et au niveau des voitures, il y a aussi dans les équipes de stratégistes. Il va falloir continuer à progresser de ce côté-là, apprendre à vraiment être au niveau de ces top teams. Mercedes, allez rapidement.
Oui, mais alors Hamilton, une course gâchée par un contact avec Leclerc. Grand Prince, il a laissé passer Russell. Au moins, c'est une forme d'intelligence quand même. On sauve ce qu'on peut, mais on va pas être bien. Clairement, Toto Wolff l'a avoué que tout le monde allait courir après Red Bull et que Mercedes n'était pas de toute façon en tête du peloton des poursuivants.
Avec un chantier hein, qui a été déclenché chez Mercedes, c'est d'essayer maintenant de travailler sur ce que les ingénieurs appellent la corrélation. Parce qu'on se rend compte en fait chez Mercedes, et j'ai le sentiment que ça fait très très longtemps que c'est le cas et qu'on n'a pas mis ça sur la table, que les simulations elles ne sont pas en corrélation avec ce qui se passe en réalité sur la piste. Ce qui fait la réussite en ce moment de Ferrari et de Red Bull depuis des saisons. Et là, ça va vraiment être... sans doute le cheval de bataille pour cette saison et pour les saisons à venir chez Mercedes.
Alors la seule bonne nouvelle du week-end pour Mercedes, c'est que c'est sur le marché des transferts. Ah. La personne la plus importante sur le marché des transferts actuellement, c'est David Sanchez.
Ah oui, clairement. Ingénieur.
Voilà, à qui on avait promis un poste designer responsable de la performance, un peu un directeur technique chez McLaren. Et il s'est fait doubler par Rob Marshall, le numéro 2, l'autre adjoint des grandes années d'Adrien Newey. Ouais. Parce que le premier, l'autre adjoint qui compte, c'est l'adjoint aéro d'Anne Fallows qui a rejoint depuis presque 2 ans maintenant Aston Martin. Et là, cette personne est sur le marché des transferts et c'est surtout l'ancien designer de Ferrari et il sait comment fonctionne la Ferrari, comment est-ce qu'elle est dessinée pour solutionner ses problèmes de rebond. Et je pense que Toto Wolff a dû quand même décrocher son téléphone pour le contacter parce qu'il pourrait être un petit peu le sauveur. Comme l'avait été Pat Fry, tu sais, chez McLaren pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, en fait, il a remis d'équerre la voiture. Il a été pris comme consultant et il leur a dit il faut corriger la voiture comme ci, comme ça. Et après, c'est là que Pat Fry a attiré de nouveau les regards sur lui dans le paddock. Il était engagé comme directeur technique d'Alpine. On sait ce que c'est devenu. Mais là, David Sanchez, c'est la personne qu'il faudrait à Mercedes pour faire un pas en avant.
On a fait les choses un peu à l'envers. David Sanchez qui avait donc quitté Ferrari pour aller chez McLaren.
Pour retourner chez McLaren.
Et qui, à la fin de sa période de jardinage, a donc découvert son poste chez McLaren. Ouais. Et au bout de 3 mois, il a dit « Bon, merci messieurs, dames, je m'en vais. »
Son poste était vampirisé par Rob Marshall.
Donc, il y a un ingénieur de talent
de haut niveau,
marché des transferts. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux pilotes, mais sur le marché des transferts, ça bouge aussi beaucoup. Un dernier mot, Stéphane, on termine là-dessus.
Il intéresserait peut-être à l'écurie que tu vas citer.
Alpine.
Voilà, tout à fait. Je pense que Pierre Gasly s'est souvenu de ses années au Japon de Super Formula parce que c'était un petit peu ça, il était dans une deuxième classe. Et le pire, franchement, c'est qu'ils ont mis des pièces qui ne fonctionnaient pas. Ils ont dit en course, on a fait un pas en arrière. Ils avaient progressé en qualif, mais ça, c'est tu peux te voir beau sur un tour. Mais après, tout est dans la gestion, l'usure des pneumatiques. Comment est-ce que tu peux garder de la performance en prenant soin de tes pneus? Alors, on pourrait dire, est-ce qu'on ne revient pas à la voiture, à l'ancienne version, on enlève les pièces nouvelles? Il faut surtout apprendre à les connaître, voir comment est-ce qu'elles fonctionnent pour mieux les exploiter. On pourrait peut-être se dire, cette voiture quand même n'est pas très réussie, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre le modèle de l'année dernière? Mais ça n'est pas possible, il y a des structures qui ont été renforcées, il faudrait elle n'est plus homologable. Pour,
ça ne va pas dans le sens de
ça va pas du tout dans le sens, etc.
Le résultat...
Mais là, ils sont dans une impasse, clairement, pour le dire. Franchement, c'est du travail, mais est-ce que ça... Il leur faut quelqu'un, maintenant, qui pose un regard sur la voiture et qui soit capable de prendre le projet global. Et l'actuel directeur technique, celui qui a fait suite à l'ancien directeur technique qui est parti, donc Pat Fry, eh bien, en fait, je ne sais pas s'il a une vision globale de tout ça, quoi.
Pour en terminer avec Pierre Gasly, en plus avec le contact qu'il a eu en début de course avec Esteban Ocon, apparemment le plancher de la voiture était abîmé.
Oui.
Et ça a là aussi fait perdre beaucoup de temps autour aux Français.
Ouais, ouais, on verra. Évoqué, mais bon.
On verra, mais voilà, c'est quand même de plus en plus compliqué, on a le sentiment.
On est revenu au point de départ, hein, à 2016, c'est-à-dire c'est le plus mauvais démarrage de saison de l'écurie Basinstone.
Ouais.
Là, ça va même être compliqué quand même d'aller chercher un top 10. Hein.
On va maintenant prendre la direction de l'endurance, Stéphane. On va rejoindre donc l'invité dont on vous parlait, Fred Makowiecki, avec qui on va passer un bon petit moment, je sens, parce qu'on a des dizaines et des dizaines de questions à lui poser. On retrouve donc Fred Makowiecki, Frédéric Makowiecki pour son état civil, pilote Porsche depuis 2014. Ça fait déjà 10 ans que tu as rejoint, Fred, les rangs du constructeur allemand. On est ravis de t'introduire dans la confrérie des fous du volant. Je vais faire les présentations avec ceux qui écoutent le podcast parce que tu n'es pas le plus connu des pilotes français en endurance. Pilote longtemps en GT et qui a été promu donc la saison dernière en 2023 avec le retour de Porsche en catégorie Rennes, donc au volant d'une des LMDH engagée sous l'étiquette Porsche Penske. Le palmarès quand même de Fred Makowiecki qui nous rejoint aujourd'hui, Stéphane, vainqueur au Petit Le Mans en 2018 parce que il a beaucoup roulé aux États-Unis, notamment en IMSA, dans le championnat d'endurance américain. Triple vainqueur des 12 heures de Sebring. Et puis vainqueur aussi en GTE Pro des 24 heures du Mans lors de la dernière édition des GTE Pro. C'était en 2022. Bonjour Fred, ravi de t'accueillir parmi nous.
Bonjour Fred. Bonjour tout le monde. Très content d'être là et de partager surtout sur ce sport qui a fait une bonne partie de ma vie.
Eh ben, on va en parler longuement. On va commencer par ton profil, Fred, parce que tu as 43 ans et on a le sentiment en fait que moi c'est la réflexion que je me fais régulièrement et quand on commente les 24 heures du Mans régulièrement, on évoque ça, l'endurance en règle générale, pilote assez sous-coté. Je sais pas si t'as ce sentiment toi de toi-même, mais alors que sur le papier, quand on sait que Fred Makowiecki est dans une voiture, on sait que cette voiture, elle va compter, que ce soit en GT ou maintenant au général en hypercar. Fred Mako, il est souvent dans les coups où ça artille fort.
Disons que j'ai surtout fait beaucoup de choses différentes dans ma carrière, ce qui fait que le sport auto est quand même un petit monde et les gens ont tendance à être assez concentrés sur ce qu'ils font, c'est-à-dire que ceux qui font le WEC connaissent le WEC, ceux qui font l'IMSA connaissent l'IMSA. Et comme je ne suis pas resté dans un championnat à proprement dit tout le temps, toute ma carrière, comme ont pu le faire d'autres, je me suis retrouvé à avoir la chance de faire le WEC, l'IMSA, le Super GT, avoir commencé dans les séries SRO. Ben, tout ça m'a permis en fait d'avoir une grosse expérience, d'avoir quelques belles lignes, un bon palmarès. Mais par contre, c'est vrai que dans un championnat type Le Mans et surtout en proto, parce que j'ai fait principalement du GT, je suis moins connu là-dessus.
C'est un palmarès à écrire en fait encore. Stéphane, je te laisse poser la première vraie question.
En fait, déjà, moi, je trouve que pilote d'usine Porsche, c'est un énorme statut en endurance. Ça, il faut le redire. Et puis, mener le développement de la 963, la LMDH, c'est aussi une énorme responsabilité. Comment est-ce que vous avez abordé cette tâche et pourquoi est-ce que aussi Porsche a choisi une LMDH?
La principale raison à la base, c'était d'avoir la possibilité de faire l'IMSA et le WEC, ce qui n'était pas possible avec une LMH. Et par rapport à ça aussi, là, un petit peu la flexibilité d'avoir la capacité d'avoir des clients, puisque bon, c'est vrai qu'une LMH étant encore peut-être un peu plus complexe, il y avait cette possibilité-là. Après, le développement de l'auto, c'est vrai que quand on part sur un concept LMDH, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a certaines pièces qui sont communes. On n'est pas aussi libre, puisque bon, ces châssis qui sont des bases qui peuvent être aussi vendues pour des LMP2 dans le futur, à un moment ou à un autre, on n'est pas flexible comme on veut. Par rapport à ça, il reste à, quand même à y avoir un gros travail à faire. Une LMDH peut être une très bonne auto, peut-être avec une, on va dire, ce qu'on appelle en sport auto, une fenêtre d'utilisation un petit peu plus réduite qu'une LMH, mais faut pas oublier que ça, je le vois depuis quand même pas mal d'années. En sport auto, à certains moments, on va se plaindre que le développement n'ait pas été fait comme il faut, ce qui peut être vrai à certains moments, mais aussi on ne se rend pas compte que est-ce que déjà quand on fait des courses, on exploite la voiture à 100%, et ça, on ne le voit pas souvent.
Et à la base de la base, il y a un choix pour le châssis multimatique. Pourquoi ce choix-là? Il y a quatre châssis
Ouais.
homologués, support d'une LMDH. Et pourquoi ce choix du multimatique?
Alors, j'ai pas été dans toutes les discussions, donc je peux pas exactement. La seule chose, c'est que je pense que Porsche voulait une certaine indépendance, c'est-à-dire que par rapport à ça, on sait que d'autres constructeurs travaillent avec plusieurs, d'autres constructeurs châssis travaillent avec plusieurs constructeurs de voitures. Et je pense que Porsche voulait une certaine indépendance, qu'à la base, il devait y avoir aussi Audi qui soit là avec nous. Donc en fait, c'était le fait de pouvoir, entre guillemets, vraiment être moteur aussi dans le développement global et pas peut-être être restreint sur certains compromis, comme ça pouvait être le cas, si on travaillait avec d'autres, constructeurs de châssis. Ça reste mon avis.
Moi, j'aimerais bien savoir, Fred, comment ça se passe quand on est pilote de GT depuis 7-8 ans à l'époque, qu'on entend que Porsche va revenir donc en hypercar. Forcément, tu avais la quarantaine à ce moment-là. Il faut faire partie de la liste. C'est compliqué, moi, pour en avoir parlé en off avec certains pilotes de la génération précédente des LMP1 quand le programme est arrivé. Ceux qui n'ont pas été pris, ça a été quand même un petit peu difficile. C'est une période cruciale dans la carrière d'un pilote.
Ah ben, tout à fait. Surtout que, comme vous le disiez, bon, j'avais 40 ans à ce moment-là, même un peu plus. On n'est pas beaucoup de pilotes à être pilote d'usine et avoir plus de la quarantaine. Donc, moi, n'ayant jamais fait de proto, alors bon, tout dépend si on apparente une Super GT à un proto, mais n'ayant jamais fait de proto en Europe, je me retrouvais un petit peu à est-ce que ça va pouvoir se faire ou pas. Tout en sachant que moi, j'avais participé au développement très tôt, c'est-à-dire qu'on a commencé les essais en simulateur en mars 2021. Donc, bien avant que la voiture fasse sa première course à Daytona en 2023. Donc, bon, c'est vrai que c'était qui tout double. Soit je restais en GT, je terminais ma carrière en GT, soit j'avais la chance que ça passe. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, bon, je voudrais faire le pas. Ce n'est pas moi qui décide. La seule carte que j'avais à jouer, c'était d'être professionnel. Et quand il y avait des tests, d'être performant. Bon, apparemment, ça s'est bien goupillé.
Il y a une expérience qui a quand même été déterminante, c'est votre participation au championnat Super GT au Japon, qu'on ne connaît pas très bien et c'est fort dommage d'ailleurs. Et
Ouais.
là, il y avait des voitures, mais exceptionnelles en termes d'appui, en termes de puissance, qui se rapprochaient vraiment de ce qui se faisait de mieux à l'époque en LMP1. Et ça vous a servi de base pour gagner ce poste aussi de pilote de développement de la
Ça a pesé ça?
963.
Ça a pesé ça?
Ça a pesé surtout sur le background que j'ai eu au niveau. J'ai fait beaucoup de développement dans ma carrière et ça a commencé assez tôt, des choses qui ne sont pas forcément connues. J'ai fait le développement des petits prototypes CN pour Ligier à l'époque, quand Guy était encore là. C'est là où j'ai commencé à faire le développement, pas mal d'aéros et autres. Après, je suis pilote de développement pour Michelin depuis 2006, donc j'ai participé à tout ce développement et cette guerre de pneus qu'il y avait au Japon. C'est ce qui fait que je suis arrivé aussi au Japon, ma connaissance du pneumatique. Et là-dedans, en fait, être un bon pilote de course et être un bon pilote de développement, ce sont deux choses différentes. C'est un petit peu comme être un bon performance engineer ou un bon race engineer. Ce n'est pas la même chose. Et il ne faut pas les mêmes atouts, entre guillemets. Et bon, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir quand même une vue globale de comment il faut appréhender un développement, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça, c'est vrai que ça m'a aidé. En plus, bon, encore une fois, les Super GT à l'heure actuelle, on est quand même plus proche d'une performance d'une ancienne LMP1 qu'une LMDH actuelle. Hein. Et c'est vrai que ça reste pour moi une des plus belles catégories que j'ai pu faire dans ma carrière.
Qu'est-ce qu'il y a justement qui fait la dynamique du véhicule d'une LMDH concrètement par rapport à toutes vos expériences, par rapport au LMP1 que vous avez pu tester peut-être aussi? Qu'est-ce qui fait l'ADN de ce châssis, de cette voiture?
Alors, quand on développe une voiture, déjà, il faut respecter ce qu'on appelle la Bible, les fondamentaux, ou comment on respecte les premières fois les trois éléments fondamentaux qui sont la weight distribution, l'aérobalance et la mechanical balance. Et À l'heure actuelle, déjà de nos jours, surtout avec tous les outils qui existent et les outils de simulation, souvent ça on a tendance à l'oublier parce que les gens veulent partir dans des directions un petit peu exotiques et on se retrouve à un moment ou à un autre à faire des choses qui sont un petit peu en dehors de la physique. Quand on vient y rajouter des systèmes, puisqu'on a un système hybride avec la LMDH, là la mayonnaise elle commence vraiment à être compliquée, elle peut piquer parce que les gens pensent qu'à travers un système, on est capable de tout modifier le setup de la voiture. Mais en fait, la voiture devient plus très prévisible et comme on reste à avoir un pilote dans l'auto, ça devient très compliqué. Donc, à un moment ou à un autre, on a pu le voir au début, les constructeurs qui sont restés sur la simplicité et au niveau véhicule et en faisant une bonne voiture et en se dédouanant un petit peu de tout ce qui est système avec l'hybride, ont réussi à avoir beaucoup de performances. Nous, on commence à tirer un petit peu la quintessence de ça parce qu'on a beaucoup d'expérience sur l'hybride. Mais c'est vrai que nos débuts ont été un peu compliqués parce qu'au bout du compte, je pense que on a essayé d'introduire un petit peu trop tôt et de façon trop intrusive les systèmes. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes. Ça nous en crée encore, hein.
Ah ouais, parce que alors l'année dernière, 2023, ça a été un petit peu compliqué hein, pour Porsche en endurance. Là, cette année, ben, le début de saison est plutôt intéressant. On a vu notamment un triplé au Qatar. Hein, ton équipage finit troisième. On a le sentiment qu'il y a eu un vrai step, un gros step de fait cet hiver par Porsche et par Penske. Il ne faut pas oublier d'ailleurs Penske derrière. C'est dans quel domaine que ça a pu progresser autant? Parce que vraiment, c'est assez bluffant comme progrès.
Alors, il faut prendre le temps un petit peu de regarder la situation. Le Qatar, déjà, était un circuit qui nous convenait bien. On sait que ce qu'on parlait tout à l'heure, en fait, et on a pu voir les LMDH relativement performantes là-bas, parce que la catégorie LMDH fait qu'on a une sensibilité aéro qui est un petit peu supérieure à une LMH. Donc, quand on est capable de rouler bas, on se retrouve à se dédouaner un petit peu de toute cette sensibilité aéro. Et c'est pour ça qu'une LMDH avait tendance à être foncièrement moins pénalisée que sur des circuits où il faut remonter la hauteur de caisse. Donc déjà, il y a les caractéristiques du circuit. Ensuite, entre nous, d'un point de vue équipe, on a commencé à retravailler un petit peu sur les fondamentaux qui sont vraiment importants en sport auto, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qui est important pour aller chercher de la performance et repartons sur une base un peu plus saine. J'apparente souvent le sport automobile à l'architecture, c'est-à-dire qu'il faut bien commencer par les fondations avant de commencer à monter les murs et le toit. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire que peut-être qu'à certains moments, on était sur un terrain pas très stable, et là, on a essayé de recomprendre un petit peu les fondamentaux de la voiture, et ça nous a aidés. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à le transposer sur les autres circuits, c'est autre chose.
En termes de pilotage, vous trouvez cette voiture un petit peu lourde ou en tous les cas, elle a de l'inertie. La difficulté aussi, c'est que la moindre erreur se paye cash. C'est difficile de retrouver de l'adhérence, de la relancer. Il faut être propre.
Les autos actuelles, c'est un truc, et on était en test à Spa récemment. Il y a quelque chose qui est terrible, c'est qu'avant, on faisait une erreur, on corrigeait, on perdait un dixième. Là, vous faites une erreur, vous corrigez, vous avez perdu 5 dixièmes. Donc, ça demande en fait, la marge de manœuvre est vraiment très fine. Il faut être capable d'être à la limite, mais vraiment rester sur le fil. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, comme ça pouvait être le cas avec d'autres autos dans le passé, surtout des autos qui étaient beaucoup plus simples et un peu plus pures, on va dire. Il faut vraiment aller à la limite, pas en faire trop. Et sinon, la punition, elle est vraiment sévère. Et c'est vrai qu'à certains moments, on le voit, on fait une erreur sur un virage. Et quand on voit le prédictif où on perd 5 dixièmes, c'est assez déprimant. Donc ça, c'est le côté qui est assez stressant dans cette auto. Et bon, ça vient du fait du poids, ça vient du fait qu'on n'ait pas beaucoup d'aéro. Il y a tous ces éléments-là, mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques de ces LMDH.
Et pour faire la différence auprès du grand public entre LMH et LMDH, vous avez une récupération d'énergie à l'arrière uniquement par frein électronique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça exige en termes de pilotage, de gestion au volant?
Alors, nous, comme vous disiez, comme la récupération se fait tout à l'arrière, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça fait que c'est couplé également à la boîte de vitesse, à tout ce qui va se passer au niveau différentiel, au niveau frein moteur. Donc, c'est surtout le côté compliqué, c'est de réussir à bien coupler la régénération qui va en fait faire notre frein arrière et coupler avec le frein avant pour avoir la bonne distribution au niveau freinage, la bonne brake balance. et faire qu'on ait quelque chose de plus linéaire et le plus transparent possible pour un pilote. Parce que sinon, vous pouvez rapidement avoir que ce soit des blocages quand vous avez trop de récup, que ce soit pas assez de décélération quand la récupération n'est pas assez forte, de faire que d'avoir quelque chose de bien linéaire, puisque le problème, c'est que les systèmes, ils ont besoin de calculer. Donc, entre guillemets, ils sont un petit peu en retard, ils sont en réaction, ils ne sont pas en proaction. Donc, tout ce petit retard fait que nous, à certains moments, on a déjà commencé à soulager un petit peu la pédale de frein, à moduler, comme on dit. Donc, à certains moments, on se retrouve dans des situations où ça peut être un avantage parce que ça nous permet de jouer sur la balance de la voiture au niveau freinage, plus qu'une LMH. Par contre, c'est un désavantage sur le fait où ça a tendance à rendre une voiture plus instable, plus compliquée et surtout beaucoup plus dépendante au système. Et quand les systèmes ne sont pas bien paramétrés, là, ça devient compliqué.
Alors, on a vu Porsche, on en était heureux de cette marque mythique de retour sur le podium. On s'est dit, tiens, vraiment, Porsche est de retour et va être un acteur essentiel aux 24 heures du Mans cette année, sans le petit coup de pouce de la BOP qui a quand même avantagé d'autres constructeurs au Qatar. Alors, vous l'avez dit, c'était une question un petit peu de caractéristique du circuit aussi, mais Porsche est de retour dans le jeu sans cette fameuse prime
Ouais,
à l'écurie ou la marque la plus avantagée sur une manche parce qu'il faut tout rééquilibrer en permanence et que c'est un jeu de balancier.
ben, je complète un petit peu la question. Est-ce qu'il risque pas y avoir justement un retour d'ascenseur avec ce triplé au Qatar?
Alors, c'est pas moi qui fais les règles et nous, entre guillemets, on les subit. Donc quand c'est comme ça, le but, c'est de travailler le mieux possible pour réussir déjà à tirer la quintessence de ce qu'on a. C'est-à-dire que je reste un petit peu un puriste. J'ai quand même déjà une grosse satisfaction quand on est capable d'extraire à 100% la performance de ce qu'on a. C'est-à-dire que se plaindre de choses qui ne sont pas entre nos mains, au bout du compte, elles ne seront jamais entre nos mains. Ça ne sera pas à nous on ne pourra pas les influencer. Donc, à un moment ou à un autre, c'est de se dire, déjà, influençons ce qui est dans nos mains. Faisons qu'on fasse du bon travail et après, on verra. Là où ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui est plutôt positif, c'est quand on prend la BOP, nous versus Toyota, Bahreïn, Qatar, il n'y a pas un gros écart. C'est-à-dire que, alors, la BOP n'est pas la même, c'est-à-dire que les poids sont légèrement différents et autres, mais par contre, si on prend d'un point de vue purement théorique, on ne nous a pas donné 5 dixièmes d'avantage par rapport à Toyota. Donc, je pense que ça montre qu'on a quand même bien travaillé, qu'on allait dans le bon sens. Donc, ça, c'est vraiment positif. Encore une fois, on l'a fait dans des caractéristiques bien spécifiques d'un circuit qui nous avantageait. Maintenant, il va falloir de notre côté être capable de reproduire ça parce que quand on va aller à Imola, qui est un circuit beaucoup plus old school, beaucoup plus bosselé, cet avantage, on ne l'aura plus. Donc, il va falloir que nous, on se réinvente un petit peu à être capable de remettre la voiture là où il faut d'un point de vue exploitation. Et là, ça, c'est un challenge parce que, par contre, encore une fois, d'un seul coup, cette fenêtre d'utilisation qui est un petit peu plus restreinte, je pense qu'on risque de plus le sentir à Imola.
Imola, c'est la prochaine épreuve, hein, du championnat du monde. C'est le 21 avril. Et ça sera sur Eurosport. Je dis ça pour.
Donc la Porsche sera de nouveau un petit peu plus dans son élément à Spa.
Je pense que bon, Spa aussi, en fait, Spa, il y a cette histoire de compression de l'eau rouge. Mais c'est vrai qu'un circuit comme Spa, un circuit comme tous les circuits plats, en fait, dès qu'on va aller sur des circuits plats, ce sont vraiment des circuits qui nous permettront d'utiliser plus la voiture à son optimum. Après, encore une fois, c'est des choses qui devraient peut-être être prises en compte, je ne sais pas. Mais si d'un seul coup, on a tous les constructeurs LMDH qui arrivent et qui ont un niveau de performance vraiment correct sur les circuits très plats et qui sont un peu plus en difficulté sur les circuits, on va dire, bumpy, comme on appelle. Bon, bah, ça, c'est peut-être un truc à prendre en compte. Après, ce n'est pas à moi de juger ce qu'il y a à faire. Encore une fois, moi, ce que je veux, c'est que de notre côté, par exemple, quand on va à Sebring, on souffre fortement par rapport à une Cadillac. Donc, à un moment ou à un autre, déjà aussi de notre côté, à faire le boulot qu'il faut. Hein.
Quand vous parlez de la compression du raidillon d'eau rouge, ça signifie en fait que ça, c'est le critère déterminant pour la hauteur de caisse et c'est là où c'est un facteur un petit peu limitant pour la 963.
Oui, ben pour toutes les autos,
Ouais,
là-dessus, par
oui.
contre, c'est vraiment
Mais
toutes les autos.
la Porsche en souffre un petit peu plus quand la caisse est un peu plus relevée.
Ben, disons que ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment ou à un autre, mais je pense que c'est même plus nous, pas plus nous que les autres LMDH, et plus le concept LMDH versus LMH, où eux, ils ont quand même un petit peu plus de facilité, entre guillemets, à être un peu moins sensible à toutes ces hauteurs de caisse. Après, quand on roule, il faut bien dissocier la hauteur de caisse statique et la hauteur de caisse dynamique. Donc, à un moment ou à un autre, avec tous les outils qu'on a maintenant, on est capable normalement de mettre la voiture dans certaines positions comme on voudrait le faire. Mais ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension, beaucoup
De data.
data, et c'est surtout beaucoup de corrélations sur le fait que quand on va mettre tous les paramètres dans la simulation, qu'on réussisse à mettre vraiment la voiture comme on veut. Et c'est là où on a un petit peu de travail à faire.
Je voudrais qu'on parle, on parle là de, justement de data, de choses comme ça. Une solution pour avoir des data, c'est évidemment d'aller sur circuit. Il y a eu une séance qui a été réalisée là assez récemment, je crois que c'était fin mars, du côté d'Aragon. Et il y avait un petit jeune, un petit débutant, un Allemand qui est venu débarquer voir comment c'était une voiture d'endurance de chez Porsche, un certain Sébastien Vettel. Il est comment? Tu l'avais déjà rencontré? Il est comment, Sébastien? Tu l'as croisé ou pas?
Donc il était avec nous. Déjà, j'ai vraiment apprécié son côté abordable, simple et pas. Il n'est pas arrivé pas arrogant. Il était là pour avant tout se faire plaisir et le voir sortir de la voiture avec le sourire, c'était vraiment agréable. En tant que pilote, on est tous pareils, on partage la même passion. Donc il était vraiment abordable. Il a vraiment fait du bon travail, c'est-à-dire qu'il était là avec nous sur cette thèse d'endurance qui est quand même une responsabilité parce qu'on est là et nous, il faut qu'on enchaîne les relais pour voir si on est fiable. Il a fait le boulot, il était avec nous, il était performant. Donc en tout cas, c'était vraiment. Et puis en tant que pilote, d'avoir quelqu'un qui est 4 fois champion du monde dans notre environnement, c'est quand même plutôt sympa. Hein.
Enfin, Sébastien Vettel, on le connaît, hein. Il a fait du simulateur chez vous pour préparer ce test-là. Il a eu des réunions techniques approfondies pour connaître tout ce qui était dans ce qui faisait les caractéristiques de cette voiture. Donc, il a préparé ça. Est-ce qu'il était fit aussi? Ce qui montrerait déjà qu'il avait un petit peu préparé son coup quand même.
Alors, pour qu'il soit fit, je ne peux pas juger comment il est fit avant. Donc, en tout cas, il est sûr qu'il était content de venir. Il avait vraiment envie, il était vraiment curieux et il avait le sourire en sortant de la voiture. Donc, ça, c'est vraiment plutôt cool. Après, bon, je pense que quand on a l'expérience qu'il a, il est sûr que les voitures sont quand même assez complexes. On ne peut pas se permettre d'arriver et monter dans la voiture sans préparation. Donc là-dessus, il est arrivé avec la préparation entre guillemets minimale, mais avec les choses bien faites. Parce que quand on regarde le nombre de boutons, à l'heure actuelle, on était à l'atelier il n'y a pas très longtemps, et on voit, il y a aussi la 919 qui est là, et le volant, la 963, est plus complexe que le volant de la 919. Donc tous ces systèmes sont vraiment assez compliqués. Et donc il est arrivé, il a bien préparé, et ça, c'était plutôt cool parce que, encore une fois, il est monté dans la voiture, il était performant tout de suite, il n'a pas été sa phase d'adaptation était très rapide. Donc ça, c'était vraiment ça.
La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir un Sébastien Vettel au départ des 24 heures du Mans? Là, dès 2024, est-ce que ça te semble plausible?
Alors, personnellement, je ne suis pas du tout au courant. Ensuite, ce n'est pas quelque chose dont on a partagé. La seule chose que je pourrais dire, c'est que à terme, je ne sais pas quand, si un jour il veut venir, il est plus que le bienvenu. Ça serait fantastique de l'avoir avec nous. Après, je ne suis pas dans les petits papiers et je ne saurais pas dire s'il sera là.
Avec des
Désolé.
pilotes de ce calibre, quand même, très vite, il y a quelque chose de bluffant. Est-ce que vous avez remarqué une rapidité de compréhension de sa part, une aptitude, quelque chose qui fait que c'est un grand champion, il reste un grand champion, de toute façon, il a 36 ans, il va en avoir 37.
C'est un genou par
Pour de
rapport.
l'endurance, voilà, s'il démarre une carrière, il a 7-8 ans devant lui, sans problème, avec l'éthique de travail qu'il a, avec la préparation physique. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, oui, quand même, il est quadruple champion du monde de Formule 1.
Ben, déjà, c'est surtout à certains moments, les pilotes, ils arrivent, quand ils arrivent dans un nouvel environnement, ce qu'ils veulent surtout, c'est tout de suite impressionner. Lui, ce qu'il voulait déjà, c'est comprendre. Il voulait comprendre, il voulait, ce que j'ai beaucoup apprécié, il voulait avoir un maximum, en fait, être capable de gérer un maximum de choses quand il va monter dans la voiture et c'est surtout pas laisser beaucoup de choses au hasard. Et c'est là-dessus où on peut bien voir son professionnalisme, c'est-à-dire il évite de se mettre dans une situation où, quand il est dans l'inconnu, où il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas parce qu'entre guillemets, ça vient d'arriver, ça, c'est une situation en tant que pilote, on n'apprécie pas énormément parce qu'on se retrouve, entre guillemets, un petit peu
À subir.
à subir en position de danger. Et j'ai beaucoup aimé son côté, OK, j'essaie, entre guillemets, d'être capable de réussir à avoir un maximum d'éléments que je maîtrise pour être capable de, moi, délivrer la meilleure performance possible. Donc ça, c'était vraiment sympa.
Alors, on est juste entre nous, hein, le chrono qu'il a fait, parce qu'il n'y a rien qui a circulé.
Ça reste entre nous.
Voilà.
Je sais pas.
Bon, fallait qu'on pose la question quand même.
Oui.
Mais
Là, il a été performant.
Oui, ça serait pas étonnant que de toute façon il s'affole pas, qu'il cherche pas spécialement un chrono, qu'il ne voudrait pas dire grand-chose. Où il peut taper un chrono, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Combien
Oui.
de tours il est capable de faire avec le train? Ou c'est peut-être un chrono pour une poule, mais après tout le travail commence sur un long relais. Mais j'en viens aussi à ce qui fait la nature de votre engagement et qu'est-ce que vous apporte la culture Penske au quotidien et ce grand capitaine qui est Monsieur Roger Penske, qui est une légende aux États-Unis. Nous, on a Enzo Ferrari en Europe, voilà, et c'est un peu l'équivalent aux États-Unis.
Parce que quand Porsche et Penske se sont associés, les gens de chez Porsche disaient on est petit par rapport à Penske. En Europe, on n'a pas tout à fait la même perspective. Toi qui as beaucoup roulé aux États-Unis, tu sais ce que représente Roger Penske. Ça pèse lourd.
Ça pèse lourd et c'est quelqu'un de brillant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi dans partout là où il est passé, c'est-à-dire que ça montre en fait cette exigence. Ce que Penske nous a apporté, c'est surtout entre guillemets une exigence extrême. Le programme a commencé relativement tard. Là, je vais parler pour le WEC. Le programme a commencé relativement tard pour nous, parce qu'au bout du compte, quand on regarde bien, c'est pour ça aussi, ça explique un petit peu notre saison un peu poussive l'année dernière. Les gens commençaient à travailler ensemble en janvier 2023. Donc, quand on veut préparer un programme, surtout avec des voitures aussi complexes, c'est compliqué. Et Roger, il a pris le temps de regarder ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et ce qui nous a aussi beaucoup apporté, c'est ces prises de décision. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, bon, on laisse la chance, on regarde comment ça se passe, mais à un moment ou à un autre, quand il y a des décisions à prendre, elles sont prises. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à, entre guillemets, à se trouver des excuses sans cesse. C'est, il faut que ça fonctionne. On a des objectifs, à nous de les remplir. Quand on ne les a pas remplis, qu'est-ce qui fait qu'on ne les a pas remplis et qu'est-ce qu'il va falloir faire pour pouvoir le faire dans un futur proche? Parce qu'à un moment ou à un autre, Porsche n'a jamais été là et Porsche Penske n'a jamais été là pour participer et on est là pour gagner.
C'est quelqu'un qui aime aussi profondément les pilotes, la compétition, évidemment. Qu'est-ce que vous, il vous a apporté spécifiquement? Est-ce qu'il a participé au choix aussi des pilotes? Est-ce qu'il a eu à trancher sur des choses importantes dans le programme?
Oui, ils ont participé au choix des pilotes. C'est pour ça que, entre guillemets, les pilotes qui ont été annoncés le plus tôt étaient principalement des pilotes qui venaient des États-Unis avec Dane et Felipe. Après, c'est vraiment une collaboration entre Porsche et Penske pour essayer de trouver le bon compromis. C'est ce qui peut faire aussi la chose un petit peu compliquée à certains moments parce qu'on a deux grosses entités qui sont là. Il faut réussir à vraiment trouver la place de chacun. Et ce qui peut être un avantage en ayant vraiment ces deux gros groupes ensemble, à certains moments, ça peut compliquer un petit peu la chose. Et ça explique aussi pourquoi, entre guillemets, il nous a fallu un petit peu de temps pour être là où on voulait.
C'est l'origine aussi du transfert, entre guillemets, de Matt Campbell de l'IMSA au WEC cette année, puisqu'il vient dans votre voiture.
Oui. Bah, disons que, encore une fois, c'est vrai que les caractéristiques du WEC et de l'IMSA sont assez différentes. Dane a fait un bon travail l'année dernière chez nous. Sauf que quand il y a tout à apprendre, que ce soit les circuits, dans la voiture, on n'est pas entre guillemets encore exactement là où on veut, on est au niveau setup, au niveau exploitation, on n'est pas là où on veut. C'est sûr, quand c'est comme ça, pour un pilote, on peut vite être en difficulté. Et Dead, honnêtement, a fait vraiment du bon travail pour une première année. Je pense que c'était quand même plus simple pour lui de repasser en IMSA et que Matt, par rapport à son expérience, puisque bon, Matt, ce qui était marrant, c'est qu'on l'a mis au rookie briefing au Qatar, sauf que Matt a fait 5 ans le WEC et quelqu'un qui connaît bien le championnat et surtout quelqu'un de très performant.
Porsche, ça va être le choix du nombre aux 24 heures du Mans. Alors, vous n'aviez pas, entre guillemets, peur de la candidature de Sébastien Vettel parce qu'il ne serait pas question qu'il le remplace l'un des pilotes des équipages numéro 5 ou 6. Ce sera une troisième Porsche Penske 963 engagée. Je compte les deux Jota, plus éventuellement une deuxième Porsche Proton. On serait à 7 quand même. Porsche au Mans face à trois Ferrari, deux Toyota, deux Peugeot, trois Cadillac, deux Cadillac, pardon. Ça veut dire que là, il y a un choix très fort qui est fait du nombre pour essayer de multiplier les chances.
Alors, c'est aussi un petit peu l'intérêt du LMDH initialement, c'est le fait de dire on peut avoir une partie compétition cliente qui est forte. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, le nombre aide à la fin, ça c'est indéniable. Nous, en tant que Porsche, Sur le programme officiel, on veut être devant, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est fantastique d'avoir les teams privés et à certains moments, c'est même vraiment bénéfique parce qu'on peut voir comme à Bahreïn, entre guillemets, ils nous ont expliqué un petit peu la voie, là où il fallait aller. Donc, ils ont forcé à rester humble, chose qu'à certains moments, on oublie. Donc, c'est vraiment bien d'avoir des teams privés. Maintenant, le but, c'est Porsche veut avoir une Porsche qui gagne. Nous, en tout cas, chez Porsche Penske, on va avoir une des deux, ou une des trois au Mans, voiture qui gagne.
Alors, on va basculer un petit peu si tu veux bien, parce qu'il y a quand même eu un Grand Prix le week-end dernier à Suzuka. On a évoqué ton passage au Japon. Tu connais très très bien le Japon. Peut-être avant de parler sportivement de ce Grand Prix du Japon qui s'est déroulé, qui a été remporté par Max Verstappen, énorme surprise, doublé Red Bull, incroyable. Peut-être ton expérience, toi, au Japon. On voit les images, on sent que c'est une ambiance très très particulière. Il y avait la Formule E aussi la semaine précédente. Les Japonais, ils ont vraiment une sorte de fascination pour les sports mécaniques et une façon de vivre les choses qui semble assez différente de celle qu'on connaît en Europe et aux États-Unis notamment.
Déjà, en fait, les Japonais aiment le sport automobile pur, c'est-à-dire qu'un petit peu le old school. La façon aussi dont tu es un petit peu organisé un événement au Japon, on a les fans japonais ont vraiment accès au paddock, ont vraiment accès à toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'en Europe, on a tendance à nous vraiment, à nous un petit peu
Cloisonné.
nous cloisonner et nous mettre le plus loin possible du public, ce qui est quand même vraiment dommage. Que ce soit aux US ou au Japon, il y a vraiment ce côté proche. Et ça fait que les Japonais s'identifient beaucoup, que ce soit une marque, un pilote. Et ça manque un petit peu en Europe. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, sans les fans, on n'est pas là. Et on a besoin de ce public. Ensuite, les Japonais, là par contre, je vais parler plutôt du championnat, par exemple le Super GT, aiment vraiment le sport automobile pur. C'est-à-dire que il n'y a pas de question de. Les voitures, ce sont des monstres. Il y a très peu de. C'est des voitures un petit peu old school, mais par contre qui ont les performances d'une LMP1 hybride de l'époque. Il y a une charge aéro incroyable, il y a une guerre des pneus incroyable. Les voitures font 650 à 700 chevaux, elles pèsent à peine une tonne. Ça va beaucoup plus vite qu'une LMDH actuelle, hein, soyons clairs. Et quand on leur parle de fuel saving et de choses comme ça, ils vous regardent. Non, ils veulent voir que ça va vite, ils veulent voir de la bagarre, ils veulent voir des dépassements. Et on n'est pas du tout dans le côté lycée qu'on peut avoir en Europe. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, j'ai eu la chance d'être populaire là-bas parce que je suis arrivé et je suis parti au charbon tout de suite. Ma première course, on a commencé à se mettre des coups de porte avec l'autre voiture d'usine, puisqu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a deux catégories, il y a les voitures d'usine et il y a les voitures vraiment semi-privées, on va dire, ou semi-usine. Et j'ai commencé à me mettre des coups de porte et ça leur a plu. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'attendaient à ce que moi je laisse passer, mais non, ça ne se passait pas comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était aller chercher un résultat.
Toi, t'aimes bien la confrontation. J'ai le souvenir, j'étais en cabine d'une explication. Alors, je sais plus quelle année. Tu vas me rafraîchir la mémoire. Une explication musclée aussi au Mans, en GT, avec Sébastien Bourdais.
2018, et ça nous a valu de ne pas se parler pendant un moment.
Vous
Et ce
vous
qui est dommage.
reparlez maintenant?
Oui, on se reparle et surtout, c'est un pilote pour qui j'ai beaucoup de respect parce que. On a à peu près le même âge. À certains moments, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas beaucoup à avoir plus de 40 ans et être encore à ce niveau-là. Donc je me dis, bon, à notre âge, on ne se fait quand même pas doser par les petites 20 ans, c'est quand même plutôt pas mal.
En tout cas, c'est un super moment parce que dans cette catégorie GT, après on va reparler de la Formule 1, pardon, mais cette explication-là, tu parles de coups de portière, vous avez fait combien de kilomètres? Mais les rétros étaient repliés parce que de toute façon, vous étiez collés l'un à l'autre.
En plus, c'était. Alors, ça, c'est pas quelque chose que. En fait, on s'était trompé sur les pressions sur ce relais-là. Pour moi, on était beaucoup trop haut. Et je savais qu'en fait, si Sébastien me passait, après, ça allait être compliqué parce qu'on allait s'arrêter, changer les pneus, mettre les bonnes pressions. Mais quand vous êtes derrière, pour revenir, pour doubler, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y avait vraiment un besoin d'essayer de le garder derrière parce que ben, je savais qu'à un moment ou à un autre, sinon, ça allait me compliquer la tâche. Je sais et je suis totalement honnête avec moi-même, j'ai été rude. Il l'a été aussi, hein, c'est-à-dire que je pense
Ah bah
qu'on
c'est
a
pas
été.
un ingrat, hein.
Non, et il a tout à fait raison. Et voilà, bon, après, ça reste à avoir des belles images.
On reparle donc de la Formule 1. Quel regard tu as sur la période actuelle de la Formule 1 et notamment cette domination des Red Bull, plus précisément de Max Verstappen?
Mais disons que je pense qu'il y a deux aspects. La première, c'est que Verstappen est arrivé à maturité totale, c'est-à-dire que les erreurs ou la façon dont il approchait un petit peu les meetings, là, en fait, il est vraiment un pilote complet, que ce soit dans la pointe de vitesse qu'il a, que ce soit dans sa gestion des pneus et autres. C'est vraiment, je pense qu'il est à son summum. Donc, on va dire qu'il est dans. Vraiment dans sa galaxie et à l'heure actuelle, il est vraiment très fort. Et ça, c'est combiné à une équipe technique qui l'a toujours montré. Bon, après, il y avait aussi des moments un petit peu plus compliqués, mais je pense que c'est une équipe technique qui a des outils qui sont vraiment les plus précis possibles de probablement tout le paddock, qui font qu'ils sont capables de comprendre ce qui se passe. Parce que ça, on a pu le voir un petit peu les dernières, à certains moments en free practice, notamment en FP1, ils n'ont pas forcément toujours été les plus forts. Mais par contre, en fait, ils ont une capacité à remettre la voiture dans le bon ordre de marche qui est quand même incroyable. Ils ont cette compréhension de ce qui se passe physiquement. Et pour ça, en fait, il faut avoir des outils, que ce soit la soufflerie, que ce soit la simulation et autres, les plus poussés possibles. Et je pense que c'est là où une bonne partie du reste du paddock sont quand même plus limités par eux. Le seul problème, c'est que pour être capable de développer et mettre en place ces outils-là et être capable d'avoir le rendement maximum, ça se parle en années. Donc, c'est-à-dire que les autres ne reviendront pas comme ça du jour au lendemain.
Red Bull, c'est aussi la partie Honda. Ils ont fait un, ils ont passé un cap un moment après les années McLaren où Eric Boullier, qui était le directeur de la compétition, n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre l'Angleterre et le Japon pour expliquer ce qu'il fallait au moteur, le changer en termes d'architecture. Et il avait en face de lui des gens qui disaient OK, on va faire ça. Et en fait, rien ne bougeait. Et c'est au changement du directeur technique qu'ils ont shifté sur autre chose. Mais il y avait un obstacle en fait un petit peu culturel. Est-ce que vous l'avez ressenti? Et quand ils ont changé le directeur technique, il a dit oui, effectivement, il faut écouter les Anglais, on va tout modifier. Et c'est là où ils ont été gagnants. Mais Red Bull, là, il touche les dividendes d'une énorme prise de risque qu'ils ont faite après le moteur Renault.
Oui.
Et ils ont complètement changé d'approche, de modèle. Et c'est ça aussi qui marche, quoi.
Bah, tout à fait. Après, encore une fois, bon, Honda sont arrivés. Quand ils sont arrivés, la culture japonaise, la culture du travail japonaise est assez différente de l'européenne. C'est-à-dire que ils ont tendance à, comment dire, c'est toujours difficile quand vous arrivez en tant qu'Européen. Vous avez probablement l'expérience. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, au Japon. D'arriver et leur dire ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas toujours sûr que ça soit vraiment la bonne façon de travailler. Une fois qu'ils sont arrivés chez Red Bull, Red Bull était et a été depuis toujours probablement la référence au niveau châssis. Donc là, à un moment, quand on met le moteur dans le meilleur châssis et qu'on n'est toujours pas devant, là, à un moment ou à un autre, il y a une prise de conscience aussi de se dire qu'est-ce qu'il va falloir faire de notre côté pour réussir à passer le dernier step. Ils ont très bien passé la réglementation, la dernière réglementation moteur, pour vraiment faire le step qu'il fallait, tout en sachant qu'en fait, les Japonais ont une tendance à travailler de façon très pointilleuse, extrêmement poussée, et c'est à certains moments ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que en Europe, on va essayer de travailler assez rapidement, de trouver rapidement la meilleure solution. Les Japonais sont pas dans cette mentalité-là. Ils vont essayer beaucoup plus de solutions que nous, probablement trouver une meilleure solution que nous à la fin, mais par contre, ça prend plus de temps. Donc ça, c'est aussi culturel.
Je dirais il fallait un petit peu les secouer. Et quand Fernando Alonso, en pleine course, dit « Ah, GP2, GP2 engine », en plein Grand Prix du Japon, hein,
Ouais,
on est à
moteur de
Suzuka,
GP2.
alors c'est quand même extrêmement, enfin c'est presque une
Ah,
agression,
c'est
quoi,
presque violent.
pour
Oui, c'est violent.
des gens assez posés comme les Japonais qui réfléchissent beaucoup avant d'agir. Et là, c'était un petit peu pour les bousculer, quoi. Et c'est ce qui est arrivé, mais après.
C'est ce qui arrive après. Et en plus, c'est surtout qu'en fait, en fait, ça je l'ai trouvé, c'est ce que j'ai remarqué, entre guillemets, de mon côté, en n'étant pas impliqué, c'est quand on voit Red Bull a le moteur Honda après une période difficile avec Renault. Donc en fait, Red Bull arrive de façon assez posée avec Honda, n'est pas du tout dans la critique, et même plutôt content, parce que pendant un moment, ils n'avaient même pas de moteur. Donc en fait, ils sont beaucoup plus constructifs. Probablement que les expectations de McLaren quand ils sont arrivés étaient peut-être un peu hautes. Ça ne marchait pas comme ils voulaient. Par contre, de prendre des Japonais de front et les agresser, ça, moi, j'ai jamais vu que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le Japonais, déjà d'un point de vue culturel et hiérarchique, par exemple, La hiérarchie au Japon est très importante. C'est-à-dire qu'en fonction de votre position, vous allez le voir, on a un meeting. À certains moments, il y a un problème. Bah, personne ne va parler tant que le responsable ne décide pas de dire quelque chose, que ce soit la bonne réponse ou pas, mais ce sera lui de prendre la décision. Donc, en fait, cette hiérarchie. Donc, de les prendre directement en disant, voilà, ce que vous faites, ça ne marche pas. D'une certaine façon, ils s'en rendaient compte aussi de leur côté. C'est-à-dire que de dire ce que vous faites, c'est pas bien. Oui, d'accord, mais je pense qu'eux s'en rendent compte aussi de leur côté. Après, de dire ce que vous faites, c'est pas bien, est-ce qu'à ce moment-là, le châssis McLaren était le meilleur du plateau? Là, je mets question mark. C'est-à-dire que moi, de mon côté, ça ne me dérange pas de commencer à regarder un petit peu ce qui se passe en face et dire, attendez, prenez le temps de regarder, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça, on peut le faire du moment où on est vraiment clean de son côté, où on est vraiment dominateur dans sa partie, chose qui n'était pas le cas de McLaren.
J'aimerais bien aussi avoir ta vision de la chose. Tu disais qu'il allait falloir un certain temps aux autres équipes pour réduire le gap par rapport à Red Bull. On a le sentiment que Ferrari est lancé là dans une entreprise pour réduire justement cet écart, que ça se rattrape petit à petit. J'aimerais bien avoir ton œil parce que toi, tu connais les dynamiques qu'il y a à l'intérieur des équipes. Cette situation un petit peu particulière avec un Carlos Sainz qui est donc partant, il sera remplacé l'année prochaine par Lewis Hamilton. Et on a le sentiment dans le même temps qu'il a pris l'ascendant sur Charles Leclerc. Il termine troisième, Charles Leclerc termine quatrième avec deux stratégies qui étaient quasiment opposées hein, pour les deux Ferrari. Quelle est ta vision et à la fois de la direction d'Éric Vasseur? Il y a plein de questions, plein de sous-questions en fait dans ma question. La direction d'Éric Vasseur, le rapport un petit peu interne entre les pilotes. Comment tu lis tout ça, toi?
Alors déjà, il y a une chose qui est claire et qu'on peut voir, c'est que depuis que Fred est arrivé, il y a déjà une vraie direction. C'est-à-dire que potentiellement, pas de façon négative par rapport à ce qui a été fait avant, on peut voir que Fred a pris le temps de regarder ce qui se passait et commence à rebâtir les choses comme il le veut et comme il le pense. Et par rapport à ça, on peut revoir la Scuderia, là où ils étaient vraiment up and down et souvent avoir plus tendance à aller vers le down que vers le up. On peut voir que là maintenant, il y a beaucoup plus de certitudes. Il y a des choses qui sont, on peut voir là, en tout cas de l'extérieur, la Scuderia plus solide et qui revient dans un état de marche positif. Ça, je pense qu'on le doit à Fred Vasseur, qui est quand même quelqu'un qui est un bâtisseur, qui sait comment on bâtit une équipe, qui sait en fait les ordres de priorité et qu'à un moment, ce que je disais tout à l'heure en architecture, il y a la base, bah déjà on commence par la base et après on commence à monter les étages. Et là-dessus, c'est quelqu'un de très brillant, qui a réussi aussi partout où il est passé. Donc, à un moment ou à un autre, il y a quand même lien de cause à effet. Après, la position de Carlos Sainz et de Charles Leclerc est assez différente de nos jours. Carlos Sainz, il n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, de toute façon, lui, il est pas là. En fait, il sait que de toute façon, il ne sera pas là l'année prochaine. Donc, en fait, il n'a rien à perdre. Il a juste à performer le plus possible pour être capable, entre guillemets, d'être le plus intéressant sur le marché. À l'heure actuelle, il ne faut pas oublier qu'être performant dans une voiture, il y a quand même un facteur qu'on ne prend pas beaucoup en compte à certains moments, mais qui est quand même déterminant, qui est la confiance en soi et la prise de risque qu'on va prendre. Je pense qu'un Carlos Sainz, il a 110% de la prise de risque et ça passe. À certains moments, bah, quand ça passe, on est le super-héros. Et un Charles Leclerc qui est, entre guillemets, toutes les petites choses ne se goupillent pas comme il veut, il reste pour moi. Vraiment un pilote, il est pour moi vraiment une des références de ce qui se fait en F1, Charles Leclerc. Il a juste besoin de fait que tout se regroupe comme il veut pour remonter un petit peu ou pour remettre un petit peu le plein potentiel. Parce qu'on a pu voir quand même sur certaines saisons que quand Charles est à 100% ou à son maximum, ça reste quand même une des grosses pointures du championnat.
Moi, j'ai une question. Vraiment, je m'adresse au pilote que vous êtes. Charles Leclerc, il a une difficulté aujourd'hui avec la SF24, c'est qu'il réclame un train avant fort. Et en termes de répartition d'appui, il y a quelque chose qui le gêne dans les réglages et qui l'empêche de bien chauffer correctement ses pneus et d'avoir ce train avant fort. Et il l'a payé, on l'a vu ce week-end dans les S spécialement. Est-ce que dans ces fameux S qui sont quand même révélateurs à Suzuka, qui sont vraiment une enfilade de 6-7 virages qui sont tous liés, est-ce que justement un pilote qui est survireur, qui a un train avant fort, a un avantage par rapport à Sainz. Et lui, sa difficulté, c'est que bah justement, il n'y trouvait pas son compte. Et on a l'impression que ça va être comme ça toute l'année. La voiture, en fait, ne lui convient pas pour ça. Il n'arrive pas à la piloter comme il voudrait, alors que Sainz est beaucoup moins sensible à ce train avant fort. Il est peut-être même sous virage, je ne sais pas bien. Mais il y a un distinguo entre les deux pilotes et l'ADN de la voiture est en train de faire la différence.
C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, les caractéristiques de ce qu'on préfère en tant que pilote, en règle générale, un train avant fort va réclamer surtout une balance aéro assez sur l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, au moment, ce qui se passe quand un pilote demande un train avant fort, c'est qu'au moment où il va mettre le premier coup de volant, la voiture va réagir tout de suite. C'est-à-dire que, et il y a une bonne partie des voitures, souvent pour qu'elles soient un petit peu stables, au moment où on met le premier coup de volant, la voiture va avoir tendance à un petit peu paresseuse. Elle ne va pas nous amener exactement là où on veut. D'un point de vue performance, avoir un train avant fort, c'est ce qu'il y a de plus performant normalement. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, être capable d'amener la voiture rapidement là où on veut, c'est là où on gagne, surtout dans les virages à plutôt haute vitesse. Le seul problème, c'est que par rapport à ça, ça demande beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que si, que ce soit d'un point de vue weight distribution, d'un point de vue répart-méca, si vous n'avez pas aussi ce qu'il faut à côté, et d'un point de vue système, avec toutes ces voitures qui sont un peu complexes, il y a le diff et compagnie. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, au moment où vous allez faire une voiture un peu pointue, ben, l'arrière va être très instable. C'est ce que peuvent avoir, et apparemment, c'est ce que ont d'autres constructeurs. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on veut avoir la balance qu'on veut en tant que pilote, la voiture devient pas du tout linéaire, et là, ça devient très difficile à contrôler. Donc, à un moment ou à un autre, c'est vrai que peut-être que l'ADN de la voiture fait qu'on a besoin d'avoir une balance légèrement sous ou avec un train avant pas assez incisif. Et si la voiture a été conçue comme ça, pour revenir en avoir un train avant incisif, ça ne se fait pas en 15 jours. C'est-à-dire que là, là on parle en mois et peut-être même en années sur le fait de passer d'une génération de voiture à l'autre.
J'aimerais bien avoir ton avis aussi. Je ne sais pas si tu as regardé les qualifications. Je trouve qu'on est reparti un petit peu en arrière pendant quelques minutes là avec Lewis Hamilton en Q2, où on a retrouvé un Hamilton étincelant en Q2. Là, clairement, il y a eu un moment où la Mercedes lui a donné ce qu'il attendait depuis maintenant 3 ans. Ça a été absolument magnifique. Je voudrais avoir ton regard, justement. T'es dans les mêmes années que Lewis Hamilton, que Fernando Alonso. T'es bien placé pour nous dire, toi, physiquement, on est comment quand on a passé la quarantaine? Est-ce qu'on décline? Est-ce qu'en termes d'expérience, on a vraiment, j'imagine, un potentiel exceptionnel? Ta lecture aussi sur les capacités d'un Lewis Hamilton qui va arriver l'année prochaine chez Ferrari, avec des choses à prouver face à Charles Leclerc, et puis un Fernando Alonso. On a l'impression, comme toi, les années glissent sur lui.
Alors, pas facile, c'est quand on a beaucoup d'expérience, on sait ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Et entre guillemets, quand on arrive et qu'on est jeune, comme on apprend de tout ce qui se passe, on est un petit peu plus flexible. Quand on a plus d'expérience, à certains moments, on a besoin de. On sait la voie et là où il faut aller, ce qui nous convient vraiment. Et c'est vrai que quand la voiture ne nous convient pas, on peut avoir pendant un moment plus de difficultés à s'adapter à cette voiture pour réussir à l'amener à la limite. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, aimer un avant fort, aimer un train arrière stable, quand la voiture n'est pas comme on veut, ça peut vite être compliqué en tant que pilote. C'est pareil, je ne le connais pas personnellement. Mais par exemple, Lewis Hamilton a toujours été un pilote qui a eu besoin de. C'est un pilote qui freine fort tard, qui combine énormément en entrée. Si le train arrière n'est pas stable dans ces moments-là, entre guillemets, 80% de votre force par rapport aux autres, elle n'existe plus. Donc à un moment ou à un autre, vous ne pouvez plus aller vite. Et donc à un moment ou à un autre, il faut vraiment, entre guillemets, quand on est plus vieux, être capable de quand même se réinventer et réussir à, entre guillemets, s'adapter à la situation qui n'est pas facile. Et c'est surtout de se dire, ben, il va falloir serrer les dents. Et c'est souvent beaucoup plus difficile mentalement que réellement ce qui se passe. C'est de se dire, ben, c'est pas comme je veux. Est-ce que je veux prendre les risques ou pas? Est-ce que je veux prendre le risque de me crasher ou pas? Est-ce que la voiture, elle est comme ça me convient? Pourquoi l'équipe n'est pas capable de la mettre comme je veux? Toutes ces choses-là, ça a tendance à nous faire réfléchir, à pas nous mettre dans une disposition où on se dit, dans ma tête, et c'est un petit peu ce qui se passe à l'inverse pour Verstappen, dans sa tête, il est libre, tout va comme il veut. Et il est à 110% de confiance. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il marche sur l'eau parce que la voiture fait exactement ce qu'il veut à chaque coup de volant, à chaque moment où il va toucher les pédales. Une voiture, ça se conduit à 60-70% avec les pédales. La voiture fait exactement toujours ce qu'il veut à chaque moment. Et il n'est pas là en train d'improviser ou de corriger une situation parce que la voiture, elle fait quelque chose que lui n'avait pas prévu.
Alors on a vu aux essais Verstappen et Perez assez performants alors qu'ils réclament en termes de pilotage des choses différentes, c'est-à-dire à quel point la Red Bull est performante. On a découvert quand même, enfin on a eu la confirmation que la Ferrari est une voiture assez complète parce qu'elle a quand même été performante, très performante, ils font troisième et quatrième à Suzuka. Ça veut dire que maintenant c'est du travail pour améliorer une base saine. Par contre, on est un petit peu inquiet pour les autres. Alors McLaren, c'est aussi du travail. Mercedes, je pense qu'ils sont encore dans une impasse. Mais on va reproduire ce schéma-là toute l'année et on va peut-être voir encore Verstappen gagner 95% des courses. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour remettre du suspense en Formule 1? On va peut-être changer des règles. On ne sait pas ce qu'on va nous sortir, des grilles inversées ou des choses comme ça. On a essayé les sprints, ça ne donne rien. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour relancer l'intérêt du sport?
Alors déjà, ce serait bien déjà de remettre un peu plus le pilote au milieu de l'équation. Parce qu'à l'heure actuelle, soyons clairs, le pilote maintenant de nos jours reste une partie fondamentale de la performance. Mais en fait, une bonne partie de la performance vient de l'engineering. Donc à un moment ou à un autre, quand en tant que pilote, vous êtes remis en question parce que vous n'êtes pas assez performant, moi je voudrais juste dire, ne le prenez pas mal, notre groupe technique, mais la voiture que vous nous avez faite, elle n'est quand même pas très performante. Donc qu'est-ce qu'on prend en compte là? Et la deuxième aspect, c'est de se dire, peut-être avoir des voitures qui soient un petit peu plus simples, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, faire des voitures où il ne faille pas forcément avoir une compréhension technique aussi poussée, parce que en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça, on l'a vu l'année dernière et cette année. Au bout du compte, à partir de la mi-saison, Red Bull commence rapidement à se concentrer sur la voiture d'après. Donc, à un moment ou à un autre, ils auront toujours un temps d'avance. La nouvelle réglementation technique va redistribuer un petit peu les cartes. De toute façon, il y a deux solutions, hein. Soit vous gardez la réglementation technique actuelle pendant 10 ou 15 ans, et à un moment ou à un autre, les choses vont converger parce que tout le monde va converger un petit peu vers les mêmes points. Donc là, ça va commencer vraiment à être serré. Soit, dans ce cas-là, vous changez totalement les règles et là, vous redistribuez les cartes. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que à l'heure actuelle, avec ces voitures telles qu'elles sont là, le côté exploit, donc ce que j'appelle l'exploit, c'est quand vous êtes sur le circuit, comment vous faites pour faire fonctionner la voiture à son maximum, est aussi très importante. Et sans être irrespectueux, est-ce qu'à l'heure actuelle, toutes les équipes sont au niveau de Red Bull là-dessus?
Clairement non.
Clairement non. Je pense que vous donnez les autres voitures à l'équipe d'exploit Red Bull, ils vont plus vite que les autres teams eux-mêmes.
On
Donc
a
à ce moment-là, c'est pas facile.
eu l'exemple avec McLaren, et puis après, je crois qu'il va falloir qu'on te libère quand même parce que ça fait un moment qu'on te retient. McLaren qui annonce à Lando Norris, on va te faire rentrer dans les stands, et Lando il dit, mais là, tout de suite, c'est un peu tôt. Le pilote dans la voiture, finalement, on a le sentiment, a une meilleure vision globale de la course que les stratégistes qui sont, eux, le nez sur leur ordinateur, qui ont la possibilité de voir toutes les voitures, tous les chronos. Et ils ont, en tout cas, perdu. Je ne sais pas s'ils auraient conservé le podium face à Carlos Sainz, mais en tout cas, ils ont perdu la possibilité de disputer ce podium avec, finalement, en voulant prendre la décision à la place du pilote.
C'est surtout qu'en fait, ça on peut le voir, le sport automobile a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on est passé d'un sport automobile là où les équipes étaient beaucoup plus petites et faites de beaucoup de généralistes, avec des gens qui avaient une bonne vue globale de tout ce qui se passe. Par contre, n'étaient pas forcément spécialistes dans tout, mais par contre, il y avait beaucoup de personnes qui avaient ce qu'on appelle une overview, à que des spécialistes. Mais à un moment ou à un autre, les spécialistes, si vous n'avez pas une structure qui permette de regrouper tout ça, si vous n'avez pas une structure qui permette d'éviter leurs dérives, parce que quand on est spécialiste, on veut que sa spécialité fonctionne bien, mais à un moment ou à un autre, ça peut aussi entacher ou déranger un petit peu d'autres aspects. Donc, à un moment ou à un autre, il faut vraiment avoir une structure qui soit vraiment solide. C'est là aussi où Red Bull, je pense, est très fort, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de stabilité et depuis pas mal d'années, et ça aide quand même énormément. Savoir qui est responsable pourquoi, parce que c'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, et ce n'est pas pour pointer du doigt, mais il y a bien quelqu'un qui est responsable pour cet aspect-là, pour cette erreur-là. Si cette personne-là répète cette erreur sans cesse, une erreur n'est pas une erreur quand ça arrive qu'une fois. Ça s'appelle engranger de l'expérience. Par contre, quand l'erreur est répétée plusieurs fois, Là, ça commence à être un problème, c'est-à-dire que une partie du problème, c'est les gens qui font cette erreur-là. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand moi je vois certains pit stops de certaines équipes, bah, c'est quand on se dit on est en F1 et que les gens ils ont à peu près ils sont plus longs que nous en endurance pour faire un pit stop. J'ai envie de dire, à un moment ou à un autre, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. C'est-à-dire que les choses doivent être en état de marche. Un pit stop qui fait, en fait, il n'y a aucun pit stop qui fait gagner du temps. Tous les pit stops qui sont faits ne font que perdre du temps. Donc, c'est-à-dire que pour moi, ceux qui vont vite, en fait, c'est le minimum syndical à faire. Dès que vous commencez à perdre du temps, c'est que vous ne faites pas bien votre travail.
On a le sentiment qu'en endurance, ça échange un petit peu plus en termes de radio entre les pilotes et les ingénieurs de course pour savoir justement, d'après toi, qu'est-ce qu'on fait? On double le relais sur les pneus. J'ai le sentiment que ça échange peut-être un petit peu plus.
Ça a échangé beaucoup plus avant.
Ouais.
Maintenant, à certains moments, ça reste quand même assez limité. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr qu'on a certains. Nous, en fait, on part sur des longs relais. Donc, à un moment donné, si ça ne se passe pas bien au début, ça peut vite être compliqué. C'est-à-dire que quand on commence à perdre 5 dixièmes au tour sur les 5 premiers tours du deuxième relais, 1 seconde, 2 secondes au tour, là, ça se paye cash. C'est-à-dire que, comme on a toute une logique d'une course d'endurance, ça. Mais encore une fois, quand ça ne se passe pas comme on veut, c'est aux équipes de réagir, de comprendre rapidement ce qu'il y a à faire et d'avoir, entre guillemets, une bonne vue de bon, ben, je suis obligé de rentrer, ce n'est pas la façon optimale de faire ma course, mais comment est-ce que je peux quand même rebondir pour quand même être capable de là et faire un résultat? Et c'est là où on voit les bonnes équipes et les moins bonnes.
On va te laisser sur cette phrase en te souhaitant le meilleur pour bah, surtout essentiellement le mois de juin. J'imagine que comme tous les pilotes d'endurance, bon, il y a Imola, il y a Spa, c'est magnifique, tout ça, mais le point d'orgue, on est d'accord, c'est à la mi-juin dans la Sarthe.
À mi-juin dans la Sarthe, et puis c'est surtout qu'on a beau dire ce qu'on veut, déjà quand on a gagné Le Mans, on a fait une grosse partie de la saison, et en plus, quoi qu'il se passe, quand on a gagné Le Mans, on l'a vu l'année dernière avec Ferrari, on revient dans le match pour le championnat, donc à un moment ou à un autre, c'est que bénéfique.
Eh ben on te dit le mot de Cambronne alors pour ces 24 heures du Mans et pour cette saison 2024 chez
Merci
Porsche
Fred.
Penske.
Merci beaucoup, merci à vous.
Eh ben merci à toi encore. On va se quitter sur ces belles paroles. On a passé un excellent moment avec toi, Fred Makowiecki. Vous dire simplement qu'il n'y aura pas de fou du volant la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de Grand Prix de Formule 1 le week-end prochain. On se retrouvera après le Grand Prix de Chine. Retour en Chine pour la Formule 1. D'ici là, Stéphane,
on coupe le contact.
Contact.
1 deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.